Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
Ne manquez pas la 18e édition du Festival international d'art numérique Electra le 28 et 29 juin à l'Usine C et à la Cinémathèque québécoise. Venez participer à la grande soirée d'ouverture We Are the Robots le 28 juin à l'Usine C. 49 personnes du public seront tirées au sort pour participer à leur performance robotique Inferno dans laquelle leurs corps seront contrôlés par les machines au rythme de sons et lumières, créant des chorégraphies improbables. Alors, oseriez-vous être un robot pour un soir? Plus d'informations, electramontréal.ca ou sur la page Facebook Electra Festival d'art numérique.
La 17e édition du Suoni per il Popolo, le festival à la musique libérée qui fait trembler les murs, étend les esprits et ouvre les cœurs, devient une supernova du 1er au 24 juin. Au menu cette année, free jazz, noise, punk, nouvelle musique, opéra rock, spoken word, avant rock et art sonore. Une conférence Still Listening en mémoire à Pauline Oliveros. Trading Places, un échange d'artistes avec Vancouver. Une exposition d'art, des événements en extérieur. Plus d'infos en ligne sur suoniperilpopolo.org. Billets disponibles à la Casa del Popolo et dans vos magasins de disques préférés.
Mutech lance un concours international de création audiovisuelle pour les jeunes créateurs de moins de 30 ans. Les œuvres des 5 finalistes seront diffusées à la Maison du développement durable pendant le festival en août et des prix technologiques seront offerts par nos partenaires Ableton, Roland, Moog Audio, Metal et Touch Designer. Vous avez jusqu'au 2 juin pour participer. Info sur mutech.org/concours.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Première de l'été aujourd'hui, 30 mai. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les deux dernières semaines. Vous l'aurez deviné, ce soir, on va vous parler de Québec solidaire, de convergence. Ce soir, à l'émission, nous avions Étienne Tardy-Paradis, Ryan Roumiguer, ainsi que Sarah Bérubé-Thibault. Bienvenue à l'émission.
Bonsoir.
Allô.
Bonsoir.
Donc, on va commencer tout de suite avec toi, Ryan. Ce soir, toi, tu nous fais comme un topo sur la situation des dernières semaines.
Oui. En fait, moi, je veux surtout parler de l'élection partielle qui a eu lieu à Gouin. D'abord, il faut remettre les choses un peu en contexte. Donc, la semaine dernière, l'UQAM accueillait le congrès de Québec solidaire qui a fait beaucoup parler de lui. Il s'agissait pour le parti de choisir ses orientations en vue de l'élection générale en 2018, d'aborder des sujets comme l'altermondialisme, la sécurité publique, l'agroalimentaire et j'en passe. Mais il s'agissait également pour les membres du parti de décider si oui ou non ils acceptaient l'alliance avec le Parti québécois et d'autres partis souverainistes, dont Étienne nous parlera tout à l'heure, il me semble. Québec solidaire a aussi fait parler de lui dans le cadre des élections partielles de la circonscription de Gouin.
Oui, comme je d'ailleurs, disais. Je suis allé voter hier parce que c'est ma circonscription. Je disais tout à l'heure à la blague que moi, je suis un gars de Laval. Puis aux dernières élections, moi, j'étais à Laval-des-Rapides. Donc, Léo Bureau-Blouin a été mon député. Le Gabriel Nadeau-Dubois est mon député. Il suffirait juste que Martine Desjardins soit ma députée un jour pour que j'aie le tour du chapeau des trois leaders étudiants de 2012.
Mais vous avez voté pour qui?
Je vais taire cette information.
OK, on est patient. Mais c'est juste entre nous, là. Il n'y a personne d'autre qui écoute.
Entre nous. J'ai voté selon ma conscience.
OK, quelle conscience?
Dieu sait qu'il y en a une. Ouais. En fait, je rappelle rapidement que suite au départ anticipé de Françoise David, pour cause d'épuisement professionnel, la circonscription de Gouin s'est vue être dépourvue de députés. S'en sont suivis alors 33 jours de campagne pour 13 candidats. Deux noms étaient cités dans tous les médias, Gabriel Nadeau-Dubois pour Québec solidaire et Jonathan Marlow pour le Parti libéral du Québec. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai reprochées à la couverture médiatique de cette élection. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. Premièrement, quelque chose qui me semble basique et essentiel, c'est le processus de définition. Aucun des articles auxquels j'ai accédé ne définissait réellement ce qu'était une élection partielle. Honnêtement, moi, n'étant pas familière avec les processus électoraux du Canada et du Québec, je ne savais pas exactement ce qu'était une élection partielle. J'ai dû aller chercher dans le site de l'Assemblée nationale pour en avoir une définition concrète. C'est quelque chose qui peut paraître futile au premier abord, mais si on n'explique pas ce que c'est, la cause et pourquoi c'est utile, et la nécessité d'y participer, et de s'intéresser à cette élection, à mon avis, on risque de perdre une partie des électeurs et de l'électorat. Pour moi, ce manque de contextualisation et de définition peut aussi expliquer le faible taux de participation à ces élections partielles. Les chiffres sont de 37,5% de participation pour les élections de 2017, donc celle d'hier, et contre 73% contre les élections générales en 2014.
Oui, les élections partielles en général font toujours entre 25% et 35%, 40% maximum de participation. C'est toujours très anémique comparé aux élections générales. On tente de motiver les gens à aller voter, mais ils en voient moins l'utilité étant donné qu'il n'y a pas de grosse campagne, que ce n'est pas des élections générales.
Et en plus, dans ce cas-ci, il y avait quand même un candidat vedette. Quand c'est des gens un peu moins connus, ben là, ça chute super rapidement.
Oui, c'est ça. Puis même ce candidat-là vedette avait quand même, somme toute, le champ libre là, dans les circonstances.
Absolument.
Donc, il y a peut-être même des gens qui étaient sympathiques à sa cause, par exemple, qui se sont même pas déplacés en se disant « De toute façon, mon vote fera pas la différence, il va être élu.
Mm-hmm. » C'est sûr. Ensuite, il y a une autre chose qui, moi, m'a dérangée, c'est que les candidats n'étaient pas tous représentés sur la scène médiatique, ou du moins pas tous équitablement. Oui, naturellement, les projecteurs, comme on vient de le dire, étaient braqués sur les deux grands candidats, mais surtout M. Nadeau-Dubois et M. Marleau. Même si j'avoue que TVA News a laissé place à un troisième candidat qui est M. Belair, pour la coalition Avenir Québec.
Oui, donc c'est quand même les trois représentants des trois plus grands partis.
C'est ça.
Dans cette élection-là.
Oui, c'est ça. Mais ce que je regrette, en fait, c'est qu'on n'a pas eu accès vraiment aux idées des autres, même si elles sont marginales ou quoi.
Oui.
Je pense que ça vaut la peine quand même qu'on y ait accès.
Mais ça a été même compliqué. Moi, j'avais lu, il y avait comme 13 candidats qui se présentaient dans cette élection-là. Puis, quand j'ai reçu même mon carton d'électeur, il y avait deux candidats qui étaient indépendants, dont l'un où il n'y avait même pas écrit « indépendant » comme mention en dessous. Puis, j'ai cherché partout qui était ce candidat-là, qu'est-ce qu'il faisait. C'était un ancien candidat du parti de Rambo Gauthier.
Ah,
finalement,
ouais.
Il s'était chicané avec Rambo Gauthier. Donc, il a quitté le parti, mais s'est présenté comme indépendant quand même. Là, il y en a une autre qui est venue pour ce parti-là.
Mm-hmm.
C'était un peu le chaos, mais ça m'a pris un bon 20 minutes de recherche sur des médias pas traditionnels pour être capable de trouver cette information-là.
Ah, moi, je pensais que c'était le candidat du Bloc Pot qui avait juste tout simplement oublié de mettre son nom quand il écrivait.
Non, même pas, même pas.
Ben, c'est ça, en fait, le seul journal à avoir fait un minimum d'effort à ce niveau-là, et que j'applaudis du coup, c'est le journal Métro Montréal. Il a publié un article qui mettait en avant les idées des différents candidats de façon un peu plus équitable. Bon, là, c'est sûr, toutes les idées des candidats n'étaient pas affichées, mais il y en avait quand même plus que les autres. Donc j'avoue que même si certains candidats peuvent paraître en marge des mœurs politiques ou encore incomplets dans les idées qu'ils défendent, dans un souci de démocratie, ils devraient quand même avoir droit à un minimum d'espace médiatique.
Oui.
Enfin, hier soir, nous avons appris que c'est bel et bien le favori du Parti Québec solidaire, c'est-à-dire M. Gabriel Nadeau-Dubois, qui a remporté le siège de député à l'Assemblée nationale avec à environ 70% des voix. Je rappelle encore que M. Nadeau-Dubois est le porte-parole masculin du parti. À savoir aussi que le Parti québécois n'avait pas présenté de candidat... le Parti québécois, oui, c'est bien ça, désolé. N'avait pas présenté de candidat à l'élection. Ce geste était alors une main tendue, une prémisse à l'accord de convergence qui aurait dû être fait entre Québec solidaire et le Parti québécois. On peut alors se demander si M. Lisée, chef du Parti québécois, n'avait pas raison lorsqu'il parlait d'une victoire vide pour M. Nadeau-Dubois.
La question est lancée,
allez.
Ça sera à débattre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, une victoire vide, j'irai pas jusque-là. Je veux dire, aux dernières élections d'Angouin, c'est François David qui était qui était entré avec 50%, je pense, des voix.
51 ou 52, là.
Le PQ était loin derrière avec 30%.
Oui, oui.
Et une victoire vide, là encore, faudrait définir le terme, là. Je ne sais pas exactement ce qui sous-entendait par là, mais à mon avis, c'est plutôt difficile quand même de prétendre que cette victoire-là est vide, là. Surtout une fois que, tu sais, la montée fulgurante de Nadeau-Dubois au sein de QS, je pense que c'est vraiment quelque chose de significatif, puis c'est difficile de prétendre que c'est complètement vide de sens, là.
Mais je crois qu'il faut mettre dans le contexte les événements politiques qui sont arrivés récemment, dont la claque au visage que Jean-François Lisée a reçue par le nom de QS.
Absolument.
Donc évidemment, si QS aurait dit oui à une potentielle alliance, etc., etc., peut-être qu'il n'aurait pas du tout réagi de cette façon-là, il n'aurait pas condamné, peut-être pas condamné, mais aurait pas dit que l'élection ne valait pas, était vide ou quoi que ce soit. Donc, il faut avoir le contexte politique en tête, et c'est normal que Jean-François Lisée reprenne l'attaque là-dessus, parce que donc, il a pas réussi à tenter l'alliance, une alliance qui aurait permis à peut-être Parti québécois et à Québec solidaire d'accéder au pouvoir aux prochaines élections. Mais en ce moment, avec les sondages, on voit plutôt que c'est la CAQ qui se dirige vers le pouvoir, mais encore, on sait pas.
Oui, l'électorat est très, très volatile en ce moment, justement. On sait pas où s'enligner, parce qu'il y a quand même une espèce de consensus dans la société que le Parti libéral a fait son temps, on veut s'en débarrasser. Il y a une minorité de gens qui appuient toujours le Parti libéral. Mais là, qui peut remplacer le gouvernement de Philippe Couillard? Est-ce que c'est un gouvernement de la CAQ ou du Parti québécois, ou même de Québec solidaire, par exemple? Les gens se le demandent en ce moment.
Mais moi, je regarde en ce moment, justement, hier en Colombie-Britannique, il vient d'avoir un gouvernement de coalition entre le NPD et le Parti vert. Moi, je trouve ça incroyable.
Oui,
parce
c'est
que...
incroyable. Puis un gouvernement minoritaire de coalition.
Mm-hmm. Ça veut dire qu'un député, si je me trompe.
Mais c'est fou parce que les Verts sont 3, le NPD est 41, et libéral, 43 députés. Donc, le Parti vert aurait pu simplement s'allier et former un gouvernement majoritaire avec le NPD. Ce qu'il n'a pas fait, il a juste dit « c'est vous qu'on appuie comme gouvernement, mais on reste indépendant, on reste au Parti vert ». Donc là, on va voir qu'est-ce que la première ministre libérale va faire, si elle va démissionner ou elle va juste attendre de perdre la confiance de la Chambre. Là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce moment. Ça peut donner espoir à Québec solidaire, justement, d'avoir cette balance-là du pouvoir. C'est sûr que j'imagine qu'ils le souhaitent là, si jamais ils sont pas capables d'avoir une majorité de sièges. Oui, Ryan.
Non, moi ça tout va bien.
Donc, est-ce que tu voulais conclure dans le fond
Moi je terminais sur cette question-là et puis on a débattu. Donc...
Parfait. Ben écoutez, on va en reparler après cette petite pause musicale avec Étienne Tardy-Paradis qui va nous parler un peu plus en détail de Convergence. Maintenant, on va écouter la chanson Still Waking Up de Tim Darcy.
Comment tu m'as entendu?
Thank you. Isn't it funny how that happens?
Vous écoutez toujours la photo média sur les ondes de choc.ca. Notre thème aujourd'hui, Québec solidaire, la convergence, les élections partielles. En deuxième chronique, nous avons Étienne Tardy-Paradis. Bonsoir Étienne.
Bonsoir. Bonjour à tout le monde. La convergence des forces souverainistes québécoises s'inscrit dans un contexte historique compliqué, celui du morcellement politique de la gauche au Québec. Dans ce contexte, Jean-François Lisée dissimule sa vraie nature et cherche par tous les moyens à paraître juste devant le peuple québécois. La raison péquiste prime sur le respect de la morale. C'est pourquoi ce dernier enclenche les négociations auprès des différents partis indépendants et progressistes. Ainsi, le but est la convergence des forces pour s'unifier contre l'hégémonie libérale et peut-être devenir le prince de l'échiquier politique. Après tout, un bon prince doit être pourvu de vertus morales et politiques fondées sur la ruse et la force, ainsi que de maîtriser l'art de la partisanerie, unique objet du pouvoir. En fait, pour Jean-François Machiavel, toute paix politique est une paix armée. Et ce dernier cherche toujours à s'attirer la sympathie du peuple et s'appuyer sur les puissants. Dans cette optique, il est aimé et craint à la fois. Attendez une minute, je me suis complètement trompé de texte. Je suis en train de lire le discours de Manon Massé au Congrès de Québec solidaire. Il faut repartir du début. Le 13 janvier 2013, le nouveau mouvement pour le Québec, NMQ, cherche à raviver la flamme souverainiste et à élaborer une stratégie commune en prévision des prochaines élections. Il en résulte la création de la Convergence nationale. Ce projet de mobilisation doit permettre de réunir des souverainistes de tout acabit. On pense notamment à Option nationale avec 100% de ses membres qui sont indépendantistes et qui représentent 0,73% des voix exprimées à l'élection de 2014. Il est question aussi du Bloc québécois, qui ne bloque plus grand-chose de nos jours, mis à part l'occasion, le temps de parole de certains députés libéraux. Pensons également à Québec solidaire, qui possède un nombre relativement important de souverainistes. Toutefois, il est difficile d'affirmer que le parti est indépendantiste, car celui-ci, à l'image d'un caméléon, peut se morfondre à son environnement montréalais immédiat. Par exemple, dans Outremont, Québec solidaire est un parti fédéraliste de gauche, et tandis que dans Hochelaga-Maisonneuve, il est un parti indépendantiste progressiste. Puis, n'oublions pas le dernier parti indépendantiste digne de mention, le Parti québécois. Bien que né à travers un désir clair de faire du Québec un pays, le Parti québécois connaît depuis 2003 un manque de cohérence sur la marche à suivre pour prétendre accéder au pouvoir et ainsi faire l'indépendance. D'ailleurs, les résultats parlent d'eux-mêmes. Opposition officielle en 2003, troisième parti d'opposition en 2007, opposition officielle en 2012, gouvernement de transition en 2014 et plus encore opposition officielle. Revenons à la Convergence nationale. Bien que le mouvement qui est à la base de celui-ci démontre le désir de plusieurs acteurs d'unir leurs forces pour atteindre un objectif commun, le chemin est particulièrement sinueux. Dès le lendemain de l'élection du gouvernement péquiste de Pauline Marois, les obstacles font surface. D'abord, l'accession au pouvoir du PQ n'a pas permis de raviver la ferveur souverainiste. Il faut rappeler qu'ON et QS sont allés chercher suffisamment de voix pour empêcher le Parti québécois d'être majoritaire. Ensuite, le PQ adopte plusieurs mesures gouvernementales au niveau social, écologique et politique qui vont déplaire grandement à la gauche. La charte des valeurs, l'exploitation du pétrole de l'île d'Anticosti, des mesures de rigueur budgétaire et sans parler de briser la promesse d'avoir des élections à date fixe. La convergence des forces indépendantistes semble de plus en plus compromise. Toutefois, la débâcle électorale du Parti québécois au profit du Parti libéral de M. Couillard, qui lui-même avait réalisé plusieurs milliers de dollars de profits en Arabie Saoudite, va mener à la revanche, au retour des discussions sur l'idée de convergence. Depuis, il est possible de noter une intensification des discussions entre les différents partis politiques indépendantistes. L'essentiel des pourparlers se matérialise autour du PQ et de QS et d'une potentielle alliance électorale qui leur permettrait d'accéder au pouvoir aux prochaines élections. Coup de théâtre, il y a quelques jours, le Congrès de Québec solidaire a voté contre une éventuelle alliance entre les deux partis. En ce sens, j'aimerais savoir vos opinions sur le dénouement de cette histoire et si cela est positif pour le Québec ou non. Donc, à vous.
Je t'en prie, vas-y. Mais je pense qu'il y a définitivement lieu de se demander à quel prix est-ce que les Québécois et les Québécoises souhaitent faire la souveraineté ou non en ce moment. Je veux dire, tout particulièrement quand le principal cheval de bataille, puis là c'est généreux, de la souveraineté serait encore le Parti québécois qui, à mon avis, est définitivement en train de prendre une tournure nationaliste, identitaire assez dangereuse et inquiétante. Je pense que si le refus de Québec solidaire de s'allier avec le PQ pour les prochaines élections, mais ça veut peut-être tout simplement dire que les Québécois et Québécoises qui souhaitent voter auront l'opportunité de voter pour un parti qui est à la fois souverainiste et progressiste.
Mais le tournant identitaire, pour la charte, je veux bien. Je suis quand même d'accord de dire que l'année de Pauline Marois, c'était des années assez obscures de ce côté-là, mais en ce moment, je pense que si on regarde du côté de Jean Folisée, son désir de rallier de plus en plus de personnes, est-ce qu'il va jouer sur le côté identitaire? D'ailleurs, il y aurait eu le choix de faire une alliance avec la CAQ ou de faire une alliance avec Québec solidaire. D'après moi, il préfère Québec solidaire de la CAQ, alors que s'il voudrait vraiment aller vers un côté plus identitaire, il irait vers la CAQ.
Oui, mais la CAQ n'est pas ouvertement indépendantiste.
Non, certainement pas, mais il y a quand même des gens qui étaient à la CAQ avant, qui étaient au Parti québécois, qui sont allés vers la CAQ. Ce qui veut dire qu'ils pourraient quand même récupérer ces gens-là, qui est une bonne proportion de la population.
Oui,
d'ailleurs,
la CAQ se dit officiellement nationaliste, là, pour ce que ça veut dire. Donc, le Québec d'abord, là, dans leur programme.
Mais j'ai l'impression que c'est une posture qui vise justement à refuser toute position officielle par rapport au souverainisme. Puis moi, l'impression que ça me donnait, c'était vraiment un appel justement à la convergence des forces souverainistes de la part du PQ, et donc ça aurait été plus ou moins pertinent qu'ils choisissent de s'allier avec la CAQ à ce moment-là.
Je pense que c'est surtout le rejet de l'entente avec Oui Québec qui va faire mal à Québec solidaire, pas tant parce que ça a été rejeté, mais parce qu'ils ont, comme gardé ça un peu secret vis-à-vis de leurs membres avant le vote au Congrès. Donc ça leur fait mal dans l'opinion publique surtout, là.
Absolument.
Comme on comprend, là, Andrés Fuentesia, qui avait accepté la démarche de Oui Québec, avait peut-être pas un mandat du comité de coordination. On comprend son explication, mais en même temps, ça paraît mal.
Absolument, puis
Surtout que ça donnait espoir que les partis, même s'ils ont des grandes différences qui fait en sorte qu'ils seront jamais capables de s'accorder sur tous les points, ni de fusionner même, que tous les partis indépendantistes signent pour un plan qui va les mener à l'indépendance.
Oui, ça laisse entendre.
C'était déjà un plan. On parlait d'une assemblée constituante avant un référendum. Ça, c'est un petit peu... c'est vraiment plus Québec solidaire dans la façon de faire.
Mais en même temps, moi, ce que je lisais par rapport à ça, c'est que il y avait quand même une partie importante des membres de Québec solidaire qui ne souhaitaient pas d'Assemblée constituante, dans la mesure où est-ce que ça serait pas nécessairement des gens tous et toutes élus. Là, il y a eu... il a été question qu'il y aurait peut-être eu la moitié de ce comité qui aurait été élu, puis tout ça. Mais de toute évidence, à mon avis, ça laisse percevoir un gros cafouillage du côté de Québec solidaire, toute cette histoire de signer puis après de désavouer une entente, auprès des membres surtout.
Honnêtement, je pense pas que c'est une question de cafouillage. Je pense vraiment que chez QS, il y a deux fractions, puis bon, l'Union des forces progressistes qui alors est avec Amir Kadir, qui ont fait avec Option citoyenne ce que QS aujourd'hui. Il y a une frange qui est fédéraliste, une frange qui est souverainiste, puis ça, ces deux franges-là finissent par se confronter continuellement. Puis en ce moment, je trouve que le cafouillage qui a lieu, c'est plus par rapport à ça, c'est que d'aller d'avant vers une alliance, c'était pas nécessairement aussi de dire qu'il donnait les pleins pouvoirs au parti. En fait, on sait même pas ce qu'il y avait là-dedans.
Ça a été pas clairement défini.
Puis c'est ça qui est un peu triste dans l'histoire, c'est que si on veut être un parti de transparence, je crois que c'est en donnant des exemples comme ça, des petits exemples, qu'on va vraiment le prouver. Moi, je veux dire, si on n'est pas transparent dès le départ, avant même d'être un parti qui va peut-être aller au pouvoir, ben moi, c'est mon problème, il est là. Et c'est quoi la différence entre un ancien parti et un nouveau parti, si on ils font les mêmes choses que les autres? Alors, tu sais, c'est des petites preuves comme ça au fur et à mesure qu'il faut démontrer pour dire qu'on est différent, puis finalement offrir une nouvelle solution à la population québécoise.
Mais reste que je pense qu'il y a certains exemples assez clairs, ne serait-ce que le fonctionnement interne, les structures de Québec solidaire qui démontrent réellement une option nouvelle, une façon de faire qui est vraiment plus progressiste, plus horizontale, puis qui créer une rupture là, avec les partis traditionnels.
Oui, puis il y a aussi la question, comme c'est une structure qui est vraiment différente que celle d'un parti plus traditionnel, disons, s'il y avait eu une entente votée par les membres sur une possible convergence, une alliance ponctuelle d'échange de comté, par exemple, lors des prochaines élections, est-ce que les comités locaux de Québec solidaire auraient accepté de s'aborder leur élection ou de militer pour le Parti québécois ou de les aider ou quoi que ce soit, alors que, de ce que j'en comprends, c'est une structure un peu moins un peu plus décentralisée, donc ils ont un peu plus de marge de manœuvre. Est-ce que il n'y aurait pas eu là un autre blocage aussi à ce genre d'entente-là? C'est une question que je lance.
Ça serait tout à fait possible, à mon avis. Je pense qu'autant au niveau des membres que des militants et des militantes chez Québec solidaire, il y aurait nécessairement eu, premièrement, une grande perte de la base militante au départ, avec une alliance avec le Parti québécois, et aussi une démobilisation, puis un refus de la part de certains.
Oui. Mais il y a quand même beaucoup de membres de Québec solidaire qui voulaient un rapprochement aussi.
Oui, absolument. Ça, je pense qu'il y aurait juste eu un certain clivage au sein du parti.
Je pense que peu importe la décision de Québec solidaire, ils allaient faire des heureux et des malheureux. Là,
effectivement.
Un peu comme au Parti québécois, le fait de tendre la main à Québec solidaire, ben, ça fait des heureux puis ça fait des malheureux aussi. C'est sûr que c'est difficile. Moi, je voulais vous entendre aussi, vous en pensez quoi, vous, de la démarche des Oui Québec en général pour l'accession à l'indépendance? Le fait de rassembler des partis divergents comme ça, parce que c'est quand même... Ça faisait quand même longtemps que ces partis-là se parlaient pas tant que ça, puis qu'il y avait pas de démarche concertée. On sait que les deux dernières fois où il y a eu des référendums, en 80 et en 95, il y avait concertation, des mouvances qui étaient divergentes, mais qui se sont dit « OK, on le fait, on s'entend ». Donc...
Mais outre la question de l'indépendance, ce qui est bien dans cet exercice-là, c'est de outrepasser ne serait-ce qu'un seul parti, d'aller de l'avant. C'est, tu sais, on dit, on met le progressisme de l'avant. On veut faire avancer la société québécoise, puis on peut le faire d'une manière qui est différente que celle d'un parti normal. Fait que moi, c'est, dans cette idée-là, je trouve ça incroyable, puis même si la question de l'indépendance en soi, c'est pour ça que ça m'intéresse autant, c'est que c'est une question qui n'est pas propre à juste un parti, c'est une question qui peut être débattue par tout le monde et qui est assez vaste, qui est horizontale et pas verticale. Alors, de ce genre de façon de faire là est vraiment intéressante puis rafraîchissante parce que ça va aller chercher aussi des acteurs aussi jeunes que vieux, que peu importe la classe.
Et c'est aussi qu'il y a plusieurs visions qui s'opposent au sein même de la façon dont l'indépendance doit être amenée. Pour certains, l'indépendance, c'est la première étape. Donc, on devrait arrêter tous les débats partisans puis réaliser l'indépendance. Puis accéder à l'indépendance, ça va nous permettre de nous libérer de ce débat-là sur l'avenir politique du Québec. Puis on va pouvoir juste avoir un vrai débat gauche-droite au Québec une fois pour toutes. Puis il y en a d'autres qui pensent que si le projet de pays n'est pas fondamentalement de droite ou fondamentalement de gauche à la base, ben c'est pas un projet dont ils veulent. Donc, exact, il y a cette opposition-là aussi. Ça dépend des priorités de chacun.
Oui, il semble y avoir... mais j'ai l'impression qu'à la fondation du Parti québécois, il y avait... Puis les années qui ont suivi, les années fortes du Parti québécois, il y avait une certaine conception qui était assez partagée selon laquelle, justement, la souveraineté était la clé à la majorité des enjeux sociaux et pouvait suivre ensuite tout autre débat que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un certain déplacement dans le débat souverainiste, dans la mesure où, pour une grande partie, à mon avis, des jeunes qui se considèrent souverainistes aujourd'hui, c'est pas vrai que l'indépendance est... en soi nécessairement bonne et en soi nécessairement à la source de toute solution aux problèmes qu'on connaît aujourd'hui au Québec. Puis il y a l'entrée en jeu de plusieurs autres débats qui sont complètement indépendants du projet d'indépendance. Et donc, à mon avis, ça fait toute la différence.
En même temps, moi, je regarde l'environnement, qui est un sujet qui préoccupe vraiment beaucoup notre génération, je crois. Et je regarde ça, on regarde ça au niveau du Canada, si on... Donc, on a une promesse parmi tant d'autres. Il y a l'Alberta qui émet du CO2 à la tonne, qui continue, puis qui c'est pas prêt d'arrêter. Mm-hmm. De l'autre côté, nous, on est ici au Québec, on a l'hydroélectricité, on essaie, espère être couillard qu'on va arriver nécessairement dans l'immédiat, mais d'avoir des énergies vertes renouvelables qui sont de plus en plus présentes dans notre société. Alors, si on regarde au niveau du Canada, on va toujours se confronter à nous et à ce que les autres font. Puis après, quand ça va être notre premier ministre, Trudeau, qui va arriver, par exemple, à la COP23, il va dire, regardez le Canada, on a baissé les... Bref, on rentre dans une espèce de package deal qu'on finalement, on n'est pas capable de sortir
notre... on se reconnaît pas.
Non, et on n'est pas capable de sortir notre épingle du jeu à chaque fois, puis encore plus qu'on ait des gouvernements mous, à plat ventre, comme on a en ce moment.
Je pense que une des raisons à ce problème-là, justement, c'est le manque de pédagogie de l'indépendance. C'est qu'on n'en fait pas la promotion, puis on n'explique pas vraiment en quoi ça réglerait certains problèmes. Je suis Option Nationale sur les réseaux sociaux, puis eux, depuis leur création, c'est leur cheval de bataille, c'est l'indépendance, puis ils font un très bon travail de vulgarisation de l'indépendance. Mais si on n'en parle pas de façon décomplexée, comment est-ce qu'on convainc les gens? Puis comment on les convainc que c'est la meilleure option pour avoir un développement économique plus vert, pour se représenter nous-mêmes à l'international, puis pas être cette espèce de paradis fiscal minier, de pas être ce pays-là qui encourage la construction de pipelines et le pétrole des sables bitumineux, etc.
Effectivement, c'est un travail qui aurait dû être fait, qui aurait du moins dû être pensé des générations qui nous ont précédés, parce que je pense pas que la question de l'indépendance est une question de génération. La question de l'indépendance, elle existe depuis que les Anglais sont arrivés puis ont pris le territoire. Aurait existé, ça aurait été les Hollandais, les Américains, bon, peut-être pas les Américains, là, mais...
C'est le moment où une nation est...
Exactement.
Assujettie à une autre. Mm-hmm. C'est normal que jusqu'à la fin des temps, il va toujours y avoir une volonté chez du moins une minorité de la population.
Ouais,
et c'est juste par principe de liberté, de se libérer de cette espèce de domination-là.
Et puis c'est une question qui est nécessaire, puis dans le cas québécois qui est vraiment intéressant, elle revient toujours à l'avant-plan, puis effectivement, tu le disais tout à l'heure, le fait qu'on n'ait pas ce clivage gauche-droite nous amène toujours à indépendance ou fédéralisme. Aux dernières élections, il suffit à Couillard de prononcer souveraineté 2-3 fois.
Référendum. Le PQ, c'est le référendum et la rue.
Ouais,
vous voulez pas ça, votez pour nous.
Et ça a marché, tu sais. Alors que je pense que c'est une question qui est vraiment intéressante parce que ça peut amener les gens à se questionner sur plein de choses. Pourquoi on resterait dans le Canada? Donc, la fiscalité, est-ce qu'on aime ce que le Canada nous offre au niveau de la fiscalité? Est-ce qu'on aime ce que le Canada nous offre à tel niveau? Ça nous amène continuellement à nous questionner.
Est-ce qu'on est d'accord avec la vente de blindés à l'Arabie Saoudite?
Aussi.
Est-ce qu'on est d'accord avec...
Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de d'artillerie dessus, il n'y a pas de...
Trudeau a récemment été récompensé aussi par l'industrie pétrolière, justement. Premier ministre qui se présentait comme l'alternative verte à Stephen Harper, alors que dans les faits...
Ben c'est vrai que n'importe qui se présente à l'alternative à Stephen Harper va être vert, ou c'est pas très difficile non plus, mais...
Ouais, mais le statu quo...
Ça m'a toujours
fait... L'attaque sur le carbone, quand même, il y a ça au moins, là, mais...
Ben, c'est un petit pas, je veux dire, on n'atteindra pas les cibles que Stephen Harper avait lui-même fixées, tu sais, ouais. c'est assez gênant.
Trudeau est plus vert du côté de la Marie que...
Ouais.
que du côté de l'écologie.
Et encore, ben, il faut qu'il...
Ça ferait un petit slogan, là.
C'est beau, Émilie.
Il faut qu'il paye sa dette, hein, il n'y a pas le choix, il faut qu'il aille chercher de l'argent où est-ce qu'il peut.
Ben, c'est ça.
Mais moi, je trouve ça un peu drôle, puis je veux dire, c'est ça aussi le Canada, puis c'est ça le Québec, le système politique qu'on a en ce moment, c'est un système bipartiste. Au début, Trudeau, je me souviens, Mulcair était dans les intentions de vote, était en tête, puis il suffit qu'il aille prendre deux trois idées à gauche, et voilà, le tour était fait, comme ça s'est passé dans le passé.
Ben, en fait, même aux élections, aux dernières élections fédérales, j'ai eu l'impression que le NPD, dans son effort de se recentrer pour aller chercher plus large dans l'électorat, c'est comme présenté comme étant plus à droite dans l'esprit des gens que le Parti libéral, alors qu'il ne l'est pas.
Entre autres, sur la question du déficit.
Oui, c'est ça.
Mesures d'austérité.
Le déficit zéro, ben, c'était quand même assez... j'ai juste le mot « wild » en tête, là. Audacieux, merci beaucoup, Sarah. Non, c'est ça, c'était assez audacieux de la part de Justin Trudeau de proposer un déficit zéro alors que de pas proposer un déficit zéro alors que
Mulcair.
Oui. Ouais. Le Parti libéral semblait beaucoup plus à gauche que notre Parti libéral à nous, qui est assez dogmatique sur ce point-là, on s'entend. Ouais. Un autre petit point que je voulais aborder avec vous, la réforme des institutions démocratiques. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va être capable de voir au Québec un système du moins proportionnel mixte ou avec un élément de proportionnalité, un système électoral? Parce que là, le Parti libéral du Canada avait promis une réforme, ça vient pas. Là, il y a des partis qui promettent la même chose au Québec. Est-ce que ça va venir? Est-ce qu'on va voir la couleur de ce changement-là un jour?
C'est drôle, une fois qu'ils sont élus avec le système qu'ils ont critiqué pendant les élections, ils ont comme moins envie de le changer.
Ben c'est ça, pourquoi est-ce que tu saboterais un système qui t'a mis au pouvoir? Je veux dire,
je pense qu'on a plus de chances de voir la couleur des souvenirs de la reine d'Angleterre que de changer de système démocratique où les institutions vraiment, des fois ça en est triste. Puis même au Québec, René Lévesque avait promis une réforme du scrutin puis il l'a jamais fait.
Oui, oui, ben il y a plusieurs gouvernements du Parti québécois qui ont proposé, qui ont étudié la question en commission parlementaire et tout, mais au final, ça a toujours achoppé, ben pour les raisons qu'on connaît, là, on s'entend. Mais ce serait tellement bien pour nous sortir d'une impasse électorale, parce qu'à chaque fois, on se pose la question du vote stratégique. Puis c'est mal pour la démocratie, en mon sens, de toujours se poser la question, oui, mais là, j'ai juste le choix entre... rouge, bleu, vert, jaune, orange, c'est tout le temps rouge et bleu, que ce soit au fédéral ou au provincial, alors que certains petits partis pourraient être avantagés d'un système proportionnel comme ça, la pluralité de voix, des gouvernements de coalition. Puis en plus, au Québec, on est très fort sur le consensus, là, ben, ça serait encore mieux si on avait des partis qui se balançaient un peu mieux à l'Assemblée nationale.
Ça serait clairement un gain pour la société québécoise. Mais en même temps, souvent ça arrive aussi qu'il y a une partie de la population, tout dépend des sondages, qui est pas plus en accord, il y a pas une majorité claire qui se démarque. Alors les partis politiques en profitent pour dire « Ah, voyez-vous, la population en veut pas nécessairement, c'est plus compliqué, ils sont bien avec ce qu'ils ont en ce moment. »
La consultation internet de Justin
Trudeau. C'était complètement ridicule. Je ne sais pas si vous l'avez faite. C'était une pure blague. Là. C'était vraiment risible. Absolument risible.
Est-ce que tu te souviens d'exemples de questions qu'ils posaient?
Des questions, par exemple, de représentativité ou des choses. Vraiment, là, tu avais le choix entre vouloir un gouvernement complètement despotique ou un gouvernement entièrement transparent puis redevable. C'était complètement...
Aimez-vous la vertu ou n'aimez-vous pas la vertu?
Exact, c'est ça. C'était vraiment... Il y a peut-être des gens qui étaient contre la vertu.
Des gens qui ont... De toute façon... La définition de démocratie est assez large, là. Un gouvernement majoritaire, à quel point c'est démocratique? C'est une bonne question aussi qu'on peut lancer.
Aussi quand il est élu avec 30% de participation, puis...
C'est ça, 60% de participation, 40% de l'électorat, 100% des décisions...
Ouais.
C'est difficile.
Mais en même temps, ça nous donne un gouvernement fort qui va vers l'avant,
efficace,
qui nous amène
efficace,
vers
stable,
des zones moins troubles. Je pense qu'on devrait remercier notre système politique qui est ô combien efficace.
Ah ouais.
Regardons dans d'autres pays, en Italie.
L'Italie,
c'est séisme après séisme.
Avez-vous vu Israël?
Ça nous prendrait des élections aux 8 ans. On arrêterait de se faire chier avec ça.
Ben oui, à la place d'être des gouvernements despotiques de 4 ans, ça serait... 8 ans, le double du temps, comme ça.
Il y aurait le temps de faire ce qu'il y avait à faire.
Ben oui, là.
On va leur donner une chance.
Tu sais, Harper, il a été capable. C'est parce qu'il est resté là 9 ans.
C'est ça!
Bon, ben je pense que c'était une belle discussion qu'on a eue ce soir. Je vais vous laisser en chanson en terminant. Est-ce que vous avez quelque chose que vous alliez rajouter là-dessus?
Non, pas pour ma part, mis à part que faut éviter de se laisser entourer par le cynisme constant, puis aussi effectivement proposer des idées. Je pense que Québec solidaire effectivement peut apporter un vent de fraîcheur, mais il faudrait pas que ce vent de fraîcheur là soit perdu parce que ça sent le pouvoir, parce qu'on augmente dans les sondages, parce que si ou ça. Je pense que Québec solidaire doit garder ce côté qui est un peu anti-système, même si il est dans le système.
Et que c'est plutôt difficile d'être vraiment contre. Une fois que tu es à l'intérieur, mais quand même.
Ouais, Ouais, surtout absolument, c'est un pari assez difficile à faire, mm-hmm. mais bon, on verra dans un an les élections.
Ouais. Ouais, l'important c'est de pas verser dans le dogmatisme, ce serait la pire des.
Non, je pensais que tu allais dire l'important c'est de participer.
L'important c'est de faire votre devoir de citoyen et d'aller voter, vous avez le choix.
Oui, c'est ça.
Bon, ben merci beaucoup. Donc ce soir nous avions Sarah Bérubé-Thibault, nous avions Ryan Roumiguère ainsi que Étienne Tardy-Paradis. À l'animation, Émilien Roscanou. Vous allez écouter une chanson « Je danse le Mia » de l'artiste Bengal. On se revoit la semaine prochaine.
Bye.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid, il scrutait la salle, le 3/4 en cuir roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini, pour les plus classes, des mocassins nébuloni. Dès qu'il passait, Cameo, Midnight Star, SOS, Band Delegation ou Chalamar, tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours de danse un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps, via Planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On disait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu dances ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait en un quart d'heure. Le frère rappliquait, oh comment tu parles à ma sœur. Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. Lindisé, fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, un tour, je vrille. Je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi KEX73 JM120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse mauviette. La main sur le volant, avec la moquette. Pare-soleil pionnière sur le pare-brise arrière. Dédé, Valérie, écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la douce sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge et la Starkey Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek Coco, la coupe à la Marley Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse, à côté de personne ne touchait une bille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. Ah oui, Mino, la piste s'enflammait, tous les yeux convergeaient, les différences s'effaçaient et les rires éclataient. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre les filles dire aïe aïe aïe, je danse le Mia.